Les rendez-vous civils, un podcast pour mieux comprendre la jurisprudence des chambres civiles de la Cour de cassation.
Bonjour à tous, je suis Carole Champalone, présidente de la première chambre civile de la Cour de cassation, et j'ai le plaisir d'introduire le quatrième épisode des rendez-vous civils de la Cour de cassation. Ces rendez-vous ont pour ambition, avec l'aide du service de communication de la Cour, en la personne de Guillaume Fradin, que je remercie pour son accompagnement et son rôle tout particulier pour cette édition, de vous présenter le plus simplement possible, mais avec précision et rigueur, l'état du droit et des arrêts de la Cour dans tel ou tel domaine, arrêts qui sont rendus au nom du peuple français. Deux précédents rendez-vous ont été consacrés, pour l'un, à la présentation de la jurisprudence récente de la première chambre civile en matière de droit des étrangers, sujet fréquemment évoqué dans l'espace public, et pour l'autre, en matière de filiation, qui concerne un droit au fondement de l'identité de chaque être humain et le relie au corps social par cette identité propre. Le troisième rendez-vous était dédié à une série d'arrêts rendus le 18 décembre 2024 portant sur une question de droit des contrats, un droit de la vie quotidienne, qui portait sur un bien essentiel, la fourniture d'eau, qui nous donnait l'opportunité de vous présenter les méthodes d'interprétation d'un texte récent. Vous pouvez retrouver ces précédents épisodes sur le site de la Cour de cassation. Pour ce quatrième rendez-vous, nous revenons à la présentation d'un panorama dans une matière au cœur du droit civil, le droit de la nationalité. Pourquoi au cœur du droit civil ? Deux réponses à cela. D'abord, pour le juriste, la force symbolique du lien entre nationalité et droit civil tient au fait que, même s'il y eut un temps un code de la nationalité, depuis 1993, c'est à nouveau dans le code civil que ce droit a une bonne place à partir de son article 17, après l'énoncé de règles qui gouvernent l'application de la loi dans le temps, comme le principe de la non-rétroactivité de la loi, et la proclamation de droits civils fondamentaux, tels que le droit au respect de la vie privée. C'est donc dans le Code civil que se trouvent les règles essentielles relatives à la nationalité française que cet épisode des rendez-vous civils va vous présenter. Ensuite, c'est le lien concret entre nationalité et droit civil qui permet de justifier cette affirmation que la nationalité est au cœur du droit civil. Ce lien concret, il est exprimé à l'article 8 du Code civil, selon lequel tout Français jouira des droits civils. Cela veut dire, à contrario, que tel n'est pas le cas des étrangers. Ce n'est en réalité pas aussi simple, puisque d'une part, dès 1804, le Code civil, celui que l'on a longtemps appelé le Code Napoléon, reconnaissait sous certaines conditions des droits civils aux étrangers. Et, d'autre part, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 27 juillet 1948, les étrangers jouissent en France de droits qui ne leur sont pas spécialement refusés. Mais trois principaux droits restent attachés à la détention de la nationalité française. Le droit absolu à l'entrée et au séjour sur le territoire français, le droit de vote et l'éligibilité à toutes les élections politiques et l'accès à tous les emplois publics. La définition des règles relatives à la nationalité constitue donc un sujet de souveraineté pour un État, puisque ces règles définissent le lien juridique et politique entre cet État et une partie de sa population, ceux qu'on appelle ses nationaux, autrement dit un lien de citoyenneté. On comprend donc que s'agissant de souveraineté, chaque État définit ses lois en la matière. Mais l'appartenance de la France à l'Union européenne, qui fait des Français également des citoyens européens, n'est pas sans conséquence sur le droit de la nationalité, comme il en sera question dans ce podcast. Avec cette quatrième édition des rendez-vous civils, il s'agit une nouvelle fois de donner à nos auditeurs, que nous espérons nombreux, qu'ils appartiennent à la communauté des juristes ou qu'ils soient soucieux de connaître ce champ du droit et le rôle de la Cour de cassation en la matière, un bagage permettant de voyager sur ce territoire du droit avec des points de repère, un éclairage sur ses aspects les plus importants, une réflexion sur ses évolutions récentes, ponctuée par l'évocation d'arrêts de la Cour de cassation, mais aussi des décisions du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne. Car il en va de ce droit civil comme d'autres. Si les conditions de l'accès à la nationalité française ou sa perte sont prévues par la loi française, celle-ci s'inscrit dans une hiérarchie, la hiérarchie des normes définie par notre Constitution que le juge doit respecter. C'est l'un des éléments constitutifs de ce que l'on appelle l'état de droit, qui soumet la loi et le juge chargé de l'interpréter et de l'appliquer au respect de la Constitution et des traités internationaux signés par la France, tels que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La détention, ou pas, de la nationalité française, c'est, au-delà des droits et devoirs auxquels cette appartenance permet d'accéder, pour toute personne physique à laquelle l'article 29.3 du Code civil reconnaît le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a pas la qualité de Français, et le contentieux qui vient à la Cour de cassation le révèle, c'est un enjeu intime, au cœur de son histoire personnelle et souvent de celle de sa famille, histoire personnelle qui croise aussi l'histoire tout court de notre pays et par exemple celle de l'évolution de son territoire au XXe siècle. Le droit de la nationalité est ainsi un droit contingent par certains aspects, en ce qu'il évolue parfois au gré des besoins de la nation, de l'État, que le législateur définit. Par exemple, avoir un vivier de soldats à la fin du XIXe siècle. Mais ces évolutions témoignent aussi du changement du rapport qu'a entretenu, au fil du XXe siècle, et dans ce premier quart du XXIe siècle, le législateur avec de grands principes, comme, par exemple, celui de l'égalité entre les hommes et les femmes, auquel veille, comme tous ceux constitutionnellement garantis, le Conseil constitutionnel. Pour le juge judiciaire, ce qu'on appelle la fondamentalisation des droits civils, c'est-à-dire l'irrigation de ces droits par des principes qui sont placés en tête de la hiérarchie des normes et qui concernent donc aussi le droit de la nationalité, a des conséquences sur son office, dans cette matière donc comme dans d'autres. S'agissant de la Cour de cassation, cet office, il faut le rappeler, ne consiste pas à trancher les litiges au fond, mais l'interprétation de la loi que la Cour donne dans ses arrêts, ou la méthodologie qu'elle indique au juge du fond pour la bonne application de la loi, constitue ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire que la solution que la Cour donne à la question posée sera appliquée dans des litiges identiques, par la Cour elle-même d'abord, et par les juridictions de première instance et les cours d'appel ensuite. C'est ainsi qu'est assurée dans notre système juridique et juridictionnel l'égalité des citoyens devant la loi lorsqu'ils sont concernés par un litige, puisque, comme le dit l'article L411-1 du Code de l'organisation judiciaire, il y a, pour toute la République, une Cour de cassation, précision étant faite qu'elle est au sommet de l'ordre judiciaire. Différents aspects du droit et du contentieux judiciaire de la nationalité et de ses particularités, comme, par exemple, le rôle du ministère public, qui est le demandeur ou le défendeur, selon le cas, dans les litiges, à la différence donc des litiges habituels qui opposent en général deux personnes physiques, vont donc vous être présentés par deux membres de la Cour, M. François Ancel, conseiller, et Mme Sabine Corneloup, conseillère en service extraordinaire, tous deux éminents spécialistes de la matière et membres de la première chambre civile, qui se sont mobilisés pour cette présentation. Je les en remercie très vivement. Je précise, pour tous nos auditeurs qui souhaiteront retrouver et approfondir cette thématique, qu'ils pourront lire l'étude rédigée par M. Ancel et Mme Corneloup, qui paraîtra au prochain recueil des études de la Cour de cassation.
La nationalité désigne le lien juridique qui unit un individu à un État et qui engendre des droits politiques, civils et des devoirs, notamment militaires. C'est aussi un lien sociologique d'appartenance à une communauté, la population d'un État. L'accès à la nationalité est soumis à certaines conditions fixées par la loi qui ont évolué dans l'histoire et qui sont rassemblées dans ce que l'on désigne sous le terme de « droit de la nationalité ». Cet épisode abordera les différentes manières d'accéder à la nationalité française, soit de plein droit, soit par déclaration, soit par décision de l'autorité publique. Puis nous aborderons les cas dans lesquels cette nationalité peut être perdue. Nous présenterons aussi quelques-unes des questions récurrentes qui se posent dans le traitement de ce contentieux. Je suis Guillaume Franin, directeur de la communication de la Cour de cassation, et avec moi, pour en parler, j'ai le plaisir de vous présenter Sabine Corneloup et François Ancel, conseillers à la Cour de cassation en charge particulièrement du traitement des pourvois en matière de nationalité. Pour commencer, Pouvez-vous, François Ancel, nous dire quelles sont les conditions dans lesquelles est déterminée la nationalité ?
La règle est simple. Il incombe à chaque État de déterminer quels sont ses nationaux. Il s'agit d'un principe constant du droit international public, rappelé tant par la Cour internationale de justice, notamment dans son arrêt Notobaum de 1955, que par les juridictions européennes. Mais si la compétence relève bien de chaque État, l'exercice de cette compétence ne doit pas cependant conduire à méconnaître les engagements internationaux signés par la France. Trois grandes séries de limites encadrent aujourd'hui les pouvoirs de l'État. En premier lieu, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la CEDH. Certes, cette convention ne contient pas de dispositions en matière de nationalité. Mais la Cour européenne des droits de l'homme, instance juridictionnelle européenne chargée de veiller au respect de la Convention, considère que la nationalité participe de l'identité d'une personne. C'est pourquoi l'application des règles en matière de nationalité doit satisfaire au principe de respect du droit à la vie privée prévu par son article 8. En deuxième lieu, le droit de l'Union européenne. Il faut savoir que toute personne ayant la nationalité d'un État membre de l'Union européenne est également citoyen de l'Union. L'acquisition et la perte de la nationalité française peuvent ainsi avoir une incidence sur le bénéfice ou la perte de la citoyenneté européenne. C'est ce qui explique que la Cour de justice de l'Union européenne, qui est elle chargée de veiller au respect du droit de l'Union, impose depuis 2010 aux États membres le respect notamment d'un principe de proportionnalité dans la mise en œuvre de leur droit de la nationalité. En dernier lieu, il faut aussi réserver le cas de l'apatridie, situation dans laquelle une personne ne possède la nationalité d'aucun État. En droit français, nul ne peut perdre la nationalité française ou en être déchu s'il doit devenir apatride, et ce principe a été rappelé par le Conseil constitutionnel dans une décision du 11 avril 2025.
Alors, ce cadre étant posé, pourriez-vous, Sabine Corneloup, nous présenter les différentes manières d'accéder à une nationalité ?
Traditionnellement, deux voies sont envisagées pour bénéficier d'une nationalité. La première est la transmission de la nationalité par la filiation, qu'on appelle aussi le droit du sang. Sang française, les personnes qui sont nées d'un parent lui-même français. Ces personnes sont alors françaises dès leur naissance. On parle d'une attribution de la nationalité française. La seconde voie est la transmission de la nationalité par la naissance sur le territoire français. C'est ce qu'on appelle le droit du sol. Ces personnes sont françaises dès la naissance, à la condition que l'un de leurs parents soit lui-même né en France. On parle ici du double droit du sol, double car il y a la naissance en France du parent et de l'enfant. En revanche, si les parents sont nés à l'étranger, les personnes nées en France deviennent françaises seulement plus tard, après un certain nombre d'années de résidence sur le territoire français. Et dans ce cas, on parle alors d'acquisition de la nationalité française. Attribution et acquisition sont donc deux modalités différentes pour accéder à la nationalité.
Quel a été le choix du droit français de la nationalité ?
Le droit français de la nationalité, dont les règles se trouvent dans le Code civil, est le produit de ces deux approches. Lors de son adoption en 1804, le Code civil avait opté pour une règle d'attribution de la nationalité par la filiation. Les lois ultérieures ont progressivement ajouté d'autres possibilités d'acquisition, par le droit du sol notamment, mais également par le mariage ou par la possession d'État. De nombreuses modifications législatives sont intervenues pour en préciser les conditions, tantôt pour les faciliter, le plus souvent pour les restreindre, chaque fois au gré des contingences historiques et politiques. Et la dernière de ces modifications résulte de la loi du 12 mai 2025, dont l'objet était de restreindre l'application du droit du sol à Mayotte.
Mais revenons brièvement sur les conditions du bénéfice de la nationalité française dans ces deux modalités, attribution ou acquisition de la nationalité française. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
En ce qui concerne l'attribution de la nationalité française à la naissance, celle-ci résulte principalement de la filiation. En vertu de l'article 18 du Code civil, tout enfant dont l'un des parents est français a la nationalité française, quel que soit son lieu de naissance. Certains enfants peuvent néanmoins se voir aussi attribuer la nationalité française dès leur naissance s'ils sont nés en France dans certaines situations. Lorsque l'enfant est né de parents inconnus, de parents apatrides ou de parents dont la loi nationale ne confère pas de nationalité à l'enfant. C'est le cas aussi par l'effet de ce que l'on appelle le double droit du sol déjà brièvement évoqué. C'est la situation dans laquelle se trouve un enfant né en France de parents étrangers, mais qui sont eux aussi nés en France. Quant à l'acquisition de la nationalité, elle se fait par la voie d'une déclaration de l'intéressé ou d'un décret dit de naturalisation pris par l'autorité publique. Les cas d'acquisition par déclaration sont très divers. Il y a d'abord le cas de la personne qui est née et réside en France depuis un certain temps. Ainsi, selon l'article 21-7 du Code civil, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité, à condition de résider en France à cette date et d'y avoir résidé pendant une période de 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Il y a ensuite le cas du mariage avec un conjoint français. À cet égard, le mariage avec une personne française n'exerce aucun effet de plein droit sur la nationalité du conjoint. En revanche, il est possible pour ce conjoint d'acquérir la nationalité française après 4 ans de mariage, à condition que la communauté de vie n'ait cessé pendant ce délai. À côté de ces deux cas d'acquisition par déclaration, les plus importants en pratique, il existe d'autres, plus résiduels. L'adoption simple d'un enfant par un parent français. Le recueil d'un enfant par un particulier de nationalité française ou par un organisme privé ou public français. Ou encore, lorsque la personne peut se prévaloir d'une possession d'état de français, c'est-à-dire lorsqu'elle justifie avoir été traitée par l'administration française et s'être comportée pendant 10 ans comme un ressortissant français. À ces cas d'acquisition par déclaration, s'ajoute enfin la naturalisation, qui est le mode d'acquisition de la nationalité française qui résulte d'une décision de l'autorité publique prise par décret. Elle suppose que l'intéressé établit en France de manière stable le centre de ses intérêts. En principe, il faut au minimum 5 années de résidence, mais en pratique, on constate que la durée moyenne de séjour en France avant la naturalisation est plutôt autour de 15 ans. La naturalisation n'est jamais de droit. Elle résulte d'une décision discrétionnaire du gouvernement.
Si l'État français détermine lui-même les conditions d'accès à la nationalité française, peut-il aussi fixer les conditions de perte de cette nationalité française ?
Bien sûr, mais le droit français interdit la perte de plein droit, c'est-à-dire la perte automatique de la nationalité. Cela signifie que la perte de la nationalité ne peut résulter que d'un choix volontaire de l'intéressé ou d'une décision qui lui est imposée.
Et quelles en sont les conditions ?
Une personne peut tout d'abord faire le choix de renoncer à la nationalité française, par exemple lorsqu'elle acquiert une nationalité étrangère. La perte résulte alors d'une déclaration de sa part et elle est donc volontaire. Mais la nationalité peut également être retirée à un individu par une décision de l'autorité publique. Selon les cas, une telle décision peut prendre la forme d'un jugement ou d'un décret. La perte de la nationalité est prononcée par jugement lorsque, par exemple, il a été constaté que la personne est installée durablement à l'étranger et que pendant 50 ans, elle a perdu tout lien avec la France. C'est la perte de la nationalité dite par désuétude, ou en d'autres termes par ineffectivité, qui est prévue par les articles 23-6 et 30-3 du Code civil. Dans ce cas, l'intéressé perd même la faculté de rapporter la preuve qu'il est français par filiation. En revanche, la perte requiert l'adoption d'un décret, c'est-à-dire d'un acte pris par le Premier ministre, lorsqu'elle exprime une forme de sanction à l'encontre de l'intéressé. Cela vise notamment l'hypothèse de la déchéance de nationalité, qui peut être prononcée lorsque l'intéressé a été condamné pénalement pour un acte particulièrement grave. En particulier en cas de condamnation pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ou une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.
Alors, après cette présentation générale, est-il possible de présenter succinctement les grandes tendances du contentieux de la nationalité? Et d'abord, quelles sont les juridictions compétentes dans ce domaine?
Ce sont les tribunaux judiciaires qui sont exclusivement compétentes en la matière. Et tous les tribunaux judiciaires ne le sont pas. Le code de l'organisation judiciaire limite cette compétence à certains d'entre eux, afin de garantir une spécialisation des juges en la matière. Il y a environ une quinzaine de tribunaux judiciaires répartis sur tout le territoire français. Il convient de réserver cependant la compétence du Conseil d'État exclusivement compétent lorsque la contestation porte sur l'acquisition ou la perte de la nationalité française par un décret.
Et à la Cour de cassation ?
Alors, en cas de pourvoi contre un arrêt d'une cour d'appel ayant statué sur une question de nationalité, il entre dans les attributions de la première chambre civile de la Cour de cassation de connaître de ce contentieux. La Cour enregistre entre 70 et 100 pourvois chaque année en cette matière, 76 en 2023, 96 en 2024, sur un total d'environ 14 000 pourvois en matière civile, ce qui représente entre 4 à 7% du contentieux de la Chambre, ce qui est loin d'être négligeable. Comme pour tous les contentieux qu'elle traite, la mission de la Cour de cassation est d'assurer qu'une application uniforme du droit de la nationalité sera faite sur tout le territoire de la République et de participer à l'interprétation des textes pour former ce que l'on appelle la jurisprudence. Je rappelle que la Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction, elle est seulement juge du droit et non des faits.
Quelles sont les spécificités du contentieux de la nationalité?
Je dirais qu'elles sont au nombre de quatre. Premièrement, le désir d'appartenir à une communauté par le lien de rattachement que crée la nationalité. Ce désir d'appartenance est souvent très fort. Il en résulte que ce contentieux est humainement très sensible. Deuxièmement, il présente aussi la particularité de devoir conduire les acteurs du procès à une véritable remontée dans le temps, lorsqu'il faut aller rechercher la preuve de la nationalité française d'un aïeul, plus ou moins éloigné dans l'histoire d'une famille, pour permettre aux descendants de justifier de leur nationalité. C'est une remontée dans le temps pour les familles qui doivent puiser dans leurs archives les circonstances et les documents pour justifier de la situation de leur aïeul. C'est aussi une remontée dans le temps pour le juriste, qui doit pouvoir retrouver le fondement légal qui a permis à l'époque à cet aïeul d'accéder ou de ne pas accéder à la nationalité française. Et comme le droit de la nationalité est fréquemment modifié, il faut donc chercher la règle applicable à une date précise. Cette quête historique est nécessaire car en droit de la nationalité, la situation juridique des personnes est déterminée par la loi applicable à leur majorité. Et c'est donc à cette date qu'il faut se placer pour déterminer les règles régissant leur nationalité. Ainsi, lorsque l'individu concerné est un aïeul né au XIXe siècle, il faut aller puiser dans les recueils de lois de l'époque pour connaître les conditions d'accès à la nationalité à cette époque. Une troisième particularité de ce contentieux est d'ordre spatial. Il est lié à la détermination du territoire de la République française, qui, on le sait, a varié au gré de son histoire. Ce qui était considéré comme un territoire de la République française à un moment donné ne l'a plus été à un autre. Et bien entendu, ces modifications territoriales ont produit des conséquences importantes pour les personnes originaires de ces territoires, pour lesquelles il a fallu, notamment au moment de la décolonisation, prévoir des dispositifs spécifiques pour régler leur sort quant à leur nationalité. Et ces dispositifs spécifiques ont encore aujourd'hui des incidences très concrètes sur leurs descendants et génèrent un contentieux important. Ces considérations humaines, historiques, géographiques que je viens d'évoquer sont donc indissociables de la question de nationalité et elles rendent particulièrement aiguë la question de la preuve en matière de nationalité.
C'est la quatrième spécificité dont j'imagine vous souhaitez nous parler.
Exactement. Pour cela, il faut rappeler qu'en droit commun, la charge de la preuve incombe au demandeur. En matière de contentieux de la nationalité, le principe est différent en ce sens qu'il appartient à celui dont la nationalité est en cause de la prouver. C'est ce qui est prévu à l'article 30 du Code civil. C'est-à-dire qu'il appartient à tout citoyen qui se prétend français de prouver sa nationalité française, qu'il soit demandeur ou défendeur dans une instance judiciaire. Ce principe connaît cependant une exception lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité française. Le certificat de nationalité a été institué pour faciliter la preuve par un individu qui revendique la nationalité française qu'il se trouve dans un des cas d'attribution ou d'acquisition prévus par la loi. Ce certificat indique la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire, conformément à l'article 31-2 du Code civil.
Et comment peut-on se procurer ce certificat ?
Ce certificat est délivré par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire, qui n'agit pas ici comme agent de l'autorité judiciaire, il n'est pas investi de pouvoir juridictionnel, mais comme agent de l'administration et relève dans l'exercice de cette fonction de la seule autorité du ministère de la Justice dont il peut recevoir des instructions. Il en résulte deux conséquences. D'une part, le certificat de nationalité française ne bénéficie d'aucune autorité de chose jugée, car il n'a pas de caractère juridictionnel. Ainsi, le certificat ne fait pas obstacle à la contestation de la nationalité française qui l'atteste. D'autre part, le certificat de nationalité française a un caractère exclusivement individuel. Il ne peut être délivré au nom de plusieurs personnes, même en faveur d'enfants mineurs d'une même famille. En résumé, le certificat de nationalité française est un mode de preuve pour son titulaire de sa nationalité française, qui lui permettra de ne pas avoir à supporter la charge de cette preuve. C'est à celui qui la contestera, c'est-à-dire au ministère public, de supporter la charge de la preuve contraire. En revanche, et c'est là que souvent la confusion se fait, le certificat de nationalité française n'est pas un titre de nationalité française. Ainsi, la force probante attachée au certificat de nationalité française ne profite qu'à son titulaire et non au tiers, de sorte qu'une personne ne peut se contenter de produire un tel certificat qui concernerait son père pour justifier de sa propre nationalité française.
Mais concrètement, comment peut-on prouver qu'on remplit les conditions pour être français si on n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ?
Tout dépend ici de la règle en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français. Le principe est qu'il est nécessaire de prouver que toutes les conditions requises par la loi sont remplies. Par exemple, en cas d'acquisition de la nationalité par déclaration, il faut produire la copie de la déclaration enregistrée. En cas de naturalisation, il s'agit de la copie du décret ou un exemplaire du journal officiel dans lequel le décret a été publié. De manière générale, les actes de l'état civil jouent un rôle fondamental, et tout particulièrement l'acte de naissance de l'intéressé. Cet acte permet de prouver l'identité, le lieu de naissance, et dans beaucoup de cas, il permet également de prouver l'existence d'un lien de filiation. Et l'acte de naissance est fondamental encore à un autre titre. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, nul ne peut prétendre à la nationalité française s'il ne dispose pas d'un état civil fiable et certain. Il est dès lors nécessaire de produire un acte de naissance remplissant les conditions pour bénéficier en France de la force probante, ce qui soulève beaucoup de difficultés pour les actes établis dans certains pays étrangers.
Pouvez-vous nous donner d'autres exemples de contentieux qui suscitent encore des difficultés en jurisprudence ?
Bien sûr. Parmi les contentieux récurrents figure celui qui porte sur l'acquisition de la nationalité française par mariage. Je rappelle qu'un étranger marié avec un conjoint français peut acquérir la nationalité française par déclaration après un délai de 4 ans à compter du mariage. Il faut donc attendre 4 ans. La déclaration doit être souscrite auprès du préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, auprès du préfet de police. À cet effet, le Code civil exige que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage. L'objectif du délai de 4 ans et de cette condition de maintien d'une communauté de vie est d'éviter les mariages de complaisance. Les mariages de complaisance, ce sont des mariages contractés uniquement pour permettre à un étranger d'acquérir la nationalité française. La jurisprudence est venue préciser que la communauté de vie entre les époux devait exister non seulement d'un point de vue matériel, c'est-à-dire les époux s'entraident matériellement et en principe vivent sous le même toit, sauf contraintes professionnelles qui exigent des résidences séparées, mais qu'elle doit aussi exister d'un point de vue affectif, c'est-à-dire les époux sont affectivement attachés l'un à l'autre. Ce qui résulte notamment d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2012. S'il apparaît que la déclaration de nationalité a été souscrite alors que cette condition faisait en réalité défaut, le procureur de la République a le pouvoir d'agir en annulation de l'enregistrement de la déclaration devant le tribunal judiciaire.
Mais comment le procureur de la République peut-il en avoir connaissance ? J'imagine qu'il ne peut pas surveiller tous les couples concernés.
Non, bien sûr et heureusement, et ça serait impossible en pratique. Souvent, le procureur le découvre à l'occasion de la transcription sur les registres de l'état civil français d'enfants nés au cours du mariage, mais d'une relation extra-conjugale. Lorsque le procureur de la République découvre ainsi, parfois plusieurs années après l'enregistrement de la déclaration, que pendant le mariage, le conjoint étranger a entretenu parallèlement une relation avec une autre personne avec laquelle il a eu des enfants, cette situation peut tendre à établir qu'il n'y avait pas de réelle communauté de vie avec l'époux ou l'épouse française, ou que celle-ci a cessé. Le procureur de la République peut donc demander au tribunal d'annuler cette déclaration en invoquant le mensonge ou même parfois la fraude.
Est-ce que cela signifie que le simple non-respect du devoir de fidélité peut entraîner l'annulation de la déclaration et faire perdre la nationalité française?
Non, une relation extra-conjugale à elle seule est insuffisante pour caractériser l'absence de communauté de vie. La Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt du 15 octobre 2020. En revanche, si cette relation extra-conjugale s'accompagne notamment de la naissance d'un ou de plusieurs enfants pendant le mariage, les juges seront amenés à apprécier si cette relation est réellement compatible avec le maintien d'une communauté de vie non seulement matérielle, mais aussi affective avec le conjoint français. Et tel sera le cas a fortiori dans une situation de bigamie lorsque le ressortissant étranger est marié avec plusieurs femmes en même temps. Toute acquisition de la nationalité à raison du mariage est alors exclue.
Pouvez-vous nous donner un autre exemple de contentieux ?
Il y a par exemple la perte de la nationalité par désuétude qui suscite aussi un contentieux important. On a expliqué précédemment qu'en application de l'article 18 du Code civil est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Toutefois, un Français par filiation peut perdre sa nationalité française s'il s'est lui-même expatrié de manière prolongée et qu'il en est de même de son père ou de sa mère dont il tient la nationalité française. C'est ce qu'on appelle la perte de la nationalité française par désuétude. Il s'agit de prendre en compte un simple état de fait, à savoir l'expatriation pendant un certain délai et l'absence de lien avec la France.
Si je comprends bien, ce cas de perte de nationalité vise à prévenir le risque d'une transmission indéfinie de la nationalité française à des individus qui n'ont plus en réalité aucune attache avec la France. Mais cette perte est-elle automatique ?
Non, cette perte n'est pas automatique. Un jugement doit constater que la nationalité française a été perdue. Selon l'article 23-6 du Code civil, plusieurs conditions doivent être réunies à cet effet. La perte par désuétude suppose d'abord que l'intéressé soit français par filiation. Ensuite, elle suppose que l'intéressé n'ait pas la possession d'état de français. En outre, l'intéressé ne doit jamais avoir eu sa résidence habituelle en France. À cet égard, de brefs séjours en France ne font pas obstacle à la perte de la nationalité française. Enfin, la perte suppose que les ascendants de l'intéressé n'ont eux-mêmes ni possession d'état de français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
Alors, François Ancel, pouvez-vous nous dire ce que recouvre la notion de possession d'état de français ?
En matière de nationalité, la possession d'état recouvre le fait pour un individu de se considérer comme français et d'être traité comme français par l'administration française. Elle est généralement prouvée par la production de divers documents, et particulièrement ceux délivrés par les autorités françaises, comme une carte nationale d'identité, un passeport, une carte d'électeur ou encore l'obtention d'un certificat de nationalité française.
Est-ce que cela signifie que si une personne justifie d'une telle possession d'état, elle peut justifier de sa nationalité par filiation alors même qu'elle a été expatriée ?
Exactement. L'expatriation n'est pas en soi suffisante si, lors de cette période, la personne ou ses ascendants ont ainsi maintenu un lien avec la France.
Sabine Corneloup, que se passe-t-il si cette possession d'état de français fait défaut ou si elle ne remplit pas les conditions requises de constance et de continuité que la jurisprudence a précisées ?
Lorsque l'intéressé n'a pas de possession d'état de français et que ses ascendants sont restés fixés à l'étranger pendant plus de 50 ans, l'intéressé ne sera plus admis à faire la preuve qu'il est français par filiation. C'est ce qui résulte de l'article 30-3 du Code civil. Pour qu'un tel refus lui soit opposé, il faut néanmoins que plusieurs conditions cumulatives soient réunies. Si l'une d'entre elles fait défaut, il ne sera pas possible d'interdire à l'intéressé d'apporter la preuve qu'il est français par filiation. La mise en œuvre de cette règle de preuve, très complexe, suscite de nombreuses questions en jurisprudence depuis quelques années. Cela s'explique par des raisons historiques, puisque l'indépendance des territoires qui ont été anciennement sous souveraineté française remonte désormais pour tous ces territoires à plus de 50 ans. Par exemple, l'indépendance de l'Algérie a été proclamée le 3 juillet 1962, de sorte que le délai de 50 ans a expiré le 3 juillet 2012. Ainsi, les personnes originaires de ces territoires, qui sont demeurées françaises après l'indépendance, mais qui ont continué à vivre dans ces territoires, ont atteint le délai de 50 ans fixé par le Code civil. Par conséquent, bien qu'elles aient transmis leur nationalité française par filiation à leurs descendants, ces derniers sont susceptibles d'être touchés par ce cas de perte de la nationalité par désuétude.
Mais est-il possible de régulariser sa situation en apportant des éléments prouvant cette possession d'état par des documents qui sont postérieurs à cette période de 50 ans ?
Non, la Cour de cassation a jugé que l'intéressé ne pouvait plus apporter d'éléments de preuve de possession d'état de français à l'expiration de ce délai de 50 ans.
S'agissant de la condition de résidence à l'étranger des ascendants, concerne-t-elle l'ascendant direct ou doit-elle être aussi satisfaite par les aïeuls ?
La Cour de cassation a interprété strictement la condition de fixation des ascendants à l'étranger en ce sens qu'il suffit que l'un de ces ascendants ait résidé en France pour que l'article 30-3 du Code civil ne puisse empêcher le descendant de prouver sa nationalité par filiation. La condition de résidence à l'étranger n'est donc pas limitée aux ascendants directs. Il peut s'agir, par exemple, d'un grand-parent.
François Ancel, au début de notre discussion, vous avez évoqué l'existence d'un certain nombre de limites dans lesquelles l'État doit exercer sa compétence en matière de nationalité. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, bien sûr. En premier lieu, comme d'autres textes de loi, ceux relatifs à la nationalité peuvent faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, notamment depuis 2010 via des questions prioritaires de constitutionnalité qui sont transmises au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation lorsque celle-ci les estime sérieuses. Différents droits constitutionnellement garantis, comme le principe d'égalité, le droit à la vie privée ou la liberté d'aller et venir ont ainsi été évoqués au soutien de questions présentées à l'occasion de pourvois pour lesquels la Cour de cassation a exercé la mission de filtre que la loi lui confère. Parmi les questions transmises au regard de l'atteinte éventuelle au principe d'égalité, on peut observer que le Conseil constitutionnel a mis fin, en les déclarant inconstitutionnelles, à des dispositions anciennes, mais toujours en vigueur, qui portaient atteinte à l'égalité entre les hommes et les femmes. En revanche, le Conseil a validé des dispositions sur l'acquisition de la nationalité propre au département de Mayotte, dans la mesure où la Constitution elle-même prévoit que la législation dans certains départements ou collectivités d'outre-mer puisse différer de celle applicable sur le reste du territoire. Il s'est assuré que les dispositions en cause ne distinguaient pas, en revanche, entre les habitants de Mayotte eux-mêmes.
Sabine Corneloup, si on se place sous l'angle de la protection des droits fondamentaux, existe-t-il également un encadrement par le droit européen qui s'impose à la France ?
Tout à fait. Vous faites allusion à la deuxième et à la troisième limite que François évoquait. En effet, comme vous le savez, il existe deux sources de droit européen qui coexistent aujourd'hui. Le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH, et le droit de l'Union européenne. Et ces deux droits européens ont des conséquences sur le droit de la nationalité française. Concernant la CEDH tout d'abord, il faut savoir qu'aucun droit à la nationalité de tel ou tel État n'est garanti par la Convention. Toutefois, la Cour européenne des droits de l'homme juge qu'aussi bien la perte de la nationalité que le refus d'acquisition de la nationalité peut affecter le droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention. La Cour vérifie alors que la procédure qui a conduit à la décision de l'autorité nationale n'ait pas été arbitraire. Et la Cour s'assure aussi que cette décision n'entraîne pas de conséquences disproportionnées au regard du droit au respect de la vie privée de l'intéressé. Quant à la Cour de cassation, en tant que juge national garant de la bonne application de la Convention européenne, elle admet que cet article 8 s'applique en matière de contentieux de la nationalité. Elle contrôle donc les arrêts qui lui sont déférés par les pourvois sur ce point. En particulier, la Cour de cassation s'assure que la méthode définie par la Cour européenne a été respectée et elle exige des juges du fond qu'ils motivent leur décision sur ce point. Cependant, il est nécessaire pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle que les parties aient invoqué l'article 8 de la Convention devant les juges du fond et qu'elles aient présenté une argumentation concrète permettant aux juges d'analyser si la Convention a été méconnue. Rappelons sur ce point qu'il s'agit d'un débat factuel qui ne peut être mené devant la Cour de cassation. En témoigne un arrêt récent de la Cour de cassation du 17 décembre 2025. Ensuite, s'agissant du droit de l'Union européenne, la perspective adoptée est différente. La Cour de justice de l'Union européenne fonde le contrôle qu'elle exerce sur les droits des États membres en matière de nationalité sur la citoyenneté de l'Union. Or, la citoyenneté de l'Union est un statut qui est automatiquement attaché à la nationalité des États membres. Quand on devient français, on acquiert aussi automatiquement la citoyenneté de l'Union. Et inversement, quand on perd la nationalité française, on perd aussi cette citoyenneté européenne, à moins de posséder la nationalité d'un autre État membre de l'Union. Ainsi, même si le droit de la nationalité relève en principe de la souveraineté des États, la Cour de justice de l'Union européenne opère certains contrôles en raison de l'impact des décisions nationales sur la citoyenneté européenne. La Cour de justice se fonde à cet effet tout particulièrement sur les droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale, et les droits de l'enfant.
La Cour de cassation a-t-elle déjà eu l'occasion de mettre en œuvre ces exigences posées par la Cour de justice de l'Union européenne ?
La Cour de cassation a en effet été saisie récemment de pourvois confrontant l'interprétation du droit national aux règles dégagées par la Cour de justice. C'était à propos des règles sur la perte de la nationalité par désuétude dont nous venons de parler. Dans un arrêt rendu au début de l'année, elle a énoncé qu'il existe une obligation pour l'autorité nationale de procéder à un examen individuel de la proportionnalité des conséquences de cette perte au regard des droits garantis par l'Union européenne et en particulier par la Charte. Toutefois, cette obligation s'applique seulement si la perte de la nationalité entraîne la perte du statut de citoyen de l'Union. Cela suppose par conséquent que l'intéressé ne possède pas la nationalité d'un autre État membre qui lui permettrait de conserver la citoyenneté européenne. L'absence d'une telle autre nationalité, qui est un élément factuel, doit avoir été soulevée par le requérant devant les juges du fond. À défaut, ces derniers ne sont pas tenus de procéder à ce contrôle.
Merci François Ancel, merci Sabine Corneloup. On voit que le contentieux de la nationalité soumis à la Cour de cassation constitue un contentieux dynamique qui pose des questions fréquemment renouvelées, que ce soit en raison de la durée d'application des textes régissant la nationalité, de leur évolution régulière à la faveur de la volonté du législateur ou du développement des droits fondamentaux dont le respect est confié au juge. C'est la fin de ce podcast. Vous pourrez retrouver sur la page de cet épisode toutes les références des arrêts mentionnés au cours du podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des rendez-vous civils sur le site internet de la Cour de cassation à la rubrique kiosque, sur ses réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast. À bientôt.